Vous écoutez
RMC.
RMC, 8h-9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 8h08, le retour de ce week-end des experts, et après le jardin, après la maison, et avant de retrouver tout à l'heure Raphaël Grably pour la vie numérique, c'est Christian Recchia qui est avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour à tous, bonjour à toutes,
notre très heureux médecin, d'être présent. Voilà, notre médecin, très heureux. Vous savez, nutritionniste, qui chaque samedi est là entre 8h et 9h sur RMC, une heure dédiée à la forme et la santé, avec tout à l'heure, Christian, des conseils pour éviter les touristas. Est-ce qu'on peut éviter les touristas?
Ah oui, on peut éviter les touristas comme on évite le Covid. C'est, oui. C'est le même phénomène.
Et est-ce qu'il y a des aliments aussi qui favorisent peut-être ce type de désagrément gastrique?
Il y a des attitudes qui favorisent, pas forcément des aliments. Mais il y a des aliments qui permettent de contenir ensuite cette pathologie. Cela dit,
Gilles Valme a écrit mayonnaise, par exemple, sur le conducteur. Je sais pas pourquoi.
Il y a aussi des flans et des choses.
Des flans.
Vous savez, il suffit que ça traînait un petit peu longtemps dans un frigo.
Ou dehors.
Avec
même.
Quelqu'un qui avait un panari.
Non, Christian.
Pas le matin, je vous en supplie. Nous sommes le matin.
Bon, on évoquera tout ça tout à l'heure. On évoquera aussi les bienfaits des cures thermales,
oui,
Christian.
Oui, magnifique. J'ai eu une très grande réunion cette semaine avec Madame Rolf Patterson, qui nous a parlé avec Madame Ferrand des bienfaits du thermalisme. Cela fait 40 ans que je prône cela. Maintenant, ça revient enfin au goût du jour, et je dirais qu'à l'Académie de médecine, il faudrait réactiver cette activité.
Quels sont les bienfaits des cures thermales ces périodes épidémiques? Comment ça se passe aussi?
Ça, c'est un sujet où je suis incompétent aujourd'hui.
On posera la question tout à l'heure avec notre invité Carole Recouvreur, qui est directrice générale d'exploitation des stations thermales de Bourbonne-les-Bains, c'est en Haute-Marne. Et puis bien sûr, vos questions forme santé à notre docteur, le 3216, l'appli RMC Direct Studio. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, et on commence, Christian, comme chaque semaine depuis plusieurs mois maintenant, sur l'actualité concernant le coronavirus, avec cette information nouvelle. On sent que le gouvernement est un petit peu plus, on va dire, vigilant, et communique un petit peu plus sur le fait d'une remontée épidémique, visiblement.
Oui, alors soyons constructifs, soyons positifs. Ce que l'on peut exprimer, et nous l'avons dit ensemble, François, ça a été enregistré dès le mois de février, le port du masque est absolument obligatoire.
Alors qu'il y a eu un flou, global, là-dessus.
Alors qu'il y a eu un grand flou. Voilà. Dès la mobilisation générale, ces belles émissions que nous faisions avec vous, François, eh bien, nous disions, il faut le port du masque dans les milieux confinés, dans les milieux mal aérés. Quand une pièce n'est pas aérée, portez un masque. Quand vous êtes plusieurs dans une pièce, portez un masque. Quand vous êtes dans un magasin, portez un masque. Quand vous êtes
sauf à la maison, bien sûr,
portez un masque. Mais même à la maison, quand vous avez des enfants et que vous êtes dans un appartement très aéré, c'est pas nécessaire. Mais je dirais qu'il faut peut-être en ce moment vivre avec des fenêtres ouvertes en permanence. C'est très important.
Ça tombe bien. La température.
La crainte que j'ai, c'est l'hiver, parce que en hiver, avoir des fenêtres ouvertes, ça serait compliqué. Ça sera un autre moment, on en reparlera, mais aujourd'hui,
mais Christian,
soyons très simples, le masque est obligatoire.
Je prends le cas de ce qu'on fait là, de notre métier. Nous, on est à la radio.
On est à 2,50 m.
On est à 2,50 m, on ne peut pas faire de la radio avec des masques.
Oui.
C'est pas possible.
Mais c'est pour ça que.
Mais est-ce qu'il y a un risque là?
Ici, en ce moment, dans cette chaîne, on rentre, on a une caméra qui vous dit.
Non, mais je parle pas de toutes ces mesures qu'il y a dans toutes les boîtes.
Qui est autour de nous.
Bien sûr.
Dès le départ.
Détecteurs de température, etc. Bien sûr, évidemment.
Ici, on peut se poser la question.
Le groupe Atis prend toutes les précautions possibles. Mais dans ces environnements, est-ce que en entreprise, il faut porter le masque?
Eh bien, je pense que dans certaines entreprises, oui, il faut porter le masque. Nous pensons, et j'en suis absolument convaincu. Pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui qu'en Bretagne, eh bien, le R0 est à 2,63, autant qu'au mois de mars en Paris, et autant qu'au mois de mars et février en Alsace. Donc c'est quand même pas rien. Attention, c'est tout à fait différent, parce qu'aujourd'hui, la distance physique, on sait ce que c'est, on porte des masques, on a des tests, on a la compréhension de la pathologie, on se lave les mains en permanence, on a bien éduqué les gens, mais je pense que depuis le 15 mai, il y a une relâche de nos amis du ministère de la Santé, parce qu'on ne les voit plus. Alors après, on s'est dit dit, ben, ils nous ont dit, oui, pas de problème, nous avons tous les tests qu'il faut, sauf que les tests sur 300 000 qu'il faut faire quand on voit en Mayenne à raison de 1 000 par jour, on les aura terminés en mai 2021, donc on va être sérieux. Donc je pense très sincèrement qu'il faut absolument accélérer et mettre le turbo sur l'ensemble des tests. J'en parlais avec par SMS avec des amis du Nord ce matin, Patrice, que je salue, et concrètement, je dis à tout le monde, attention, le masque n'est pas superfétatoire. Lavage des mains toutes les demi-heures, lavage des mains toutes les demi-heures en été, c'est très important, surtout si vous êtes en dehors, en vacances.
Christian.
Et puis le gel hydroalcoolique, quand vous n'avez pas la capacité de vous laver les mains correctement.
Qu'est-ce qu'un lieu public clos?
Une gare, un aéroport.
Bah, le problème, c'est qu'une gare, c'est pas clos.
C'est pas clos, mais il y a une densité d'humains tellement importante que vous considérez
Donc la densité humaine est capitale.
Je dirais que la définition même du clos est mal définie. Dès que vous avez une densité très importante dans un endroit qui est plutôt fermé, pas ventilé comme dehors, au grand vent, eh bien, c'est un masque obligatoire. Chez un coiffeur, évidemment, chez un boulanger, évidemment, dans un restaurant, là, j'ai des problèmes. Il vaut mieux, pardon, je vais être brutal, mais un restaurant qui a des baies vitrées ouvertes sera beaucoup mieux qu'un restaurant en tube où finalement on a...
Un hypermarché.
Ah ben là, c'est
obligatoire. Un grand magasin.
Là, ça a été obligatoire.
Un centre commercial.
Je dis à mes amis qui ont des magasins, là, c'est absolument obligatoire. Et je ne sais même pas répondre, là, voyez, j'ai pas étudié la question correctement. Veuillez m'en excuser. Je pense qu'il faudrait obliger les supermarchés à voir des clients qui ont tous des masques.
Mais je pense qu'à partir de lundi au mardi, quand l'interdiction sera effective, je pense que dans ce type de lieu, on sera obligé de porter un masque.
Oui, nous avions reçu Vincent Pic en février dernier, qui dans ses magasins depuis le mois de mars oblige les clients à avoir un masque, et je dirais que c'est une bonne chose. Sachant qu'on ne peut pas obliger les gens, hein, on peut susciter l'éveil, mais
Christian,
donc là, aujourd'hui, ça sera très important.
Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, là?
Eh bien,
On sent qu'il y a un frémissement.
Sans être très inquiet, parce qu'encore une fois, on a une population qui est maintenant éduquée et prévenue, avec les distances physiques, avec les masques, le lavage des mains, je ne vais pas me répéter. On a quand même là la propension en Bretagne, la propension dans le sud-est, dans le sud-ouest, à avoir trois régions qui risquent d'avoir... L'Île-de-France s'est vidée de ses patients, de sa population, de ses citoyens. Et ces citoyens
sont maintenant... La Seine-Saint-Denis, c'est quand même assez costaud. Hein.
Oui, mais on est à 1,07 en R0, alors qu'en sud-ouest, on est à 1,65. En Bretagne, 2,63. Et puis dans les îles françaises également. Donc, soyons prudents. Nous pensons que dans les trois prochaines semaines, il faudra suspecter un vrai problème. Cela dit, comme le disait très justement un membre de l'Académie de médecine, eh bien, on a la capacité aujourd'hui de refaire basculer vers le positif les choses. Donc, c'est pas trop tard. Le vrai souci, c'est, attention, nous voyons arriver dans les hôpitaux aujourd'hui 4 fois plus de patients en une semaine, alors qu'il y a 15 jours encore, c'était relativement calme. Les réas ne sont plus vides comme il y a 3 semaines. Donc, il faut être très très vigilant. Et si aujourd'hui, vous avez encore la possibilité de changer votre lieu de vacances, ne partez pas à 1000 km, partez dans des endroits où finalement il y a peu de gens, parce qu'il y a quand même des très beaux endroits en France, dans le Morvan, c'est magnifique, à Clermont-Ferrand, c'est magnifique, en montagne, c'est magnifique, n'allez pas vous agglutiner sur la plage que j'adore, mais là aujourd'hui il y a un peu beaucoup de monde.
Thierry qui nous dit le lavage des mains toutes les 30 minutes, c'est impossible.
Oui.
Pour des personnes qui travaillent, qui sont sur des chantiers, des bureaux, etc.
Nous sommes d'accord. Mais
non, mais après, c'est vrai qu'il y a des conseils qui sont irréalisables.
Particulières. Je dirais, tous les 30 minutes, d'accord, c'est. Mais vous savez, en 30 minutes, quand on vit, les mains ont touché beaucoup de choses, sauf si vous êtes les bras en l'air, mais on ne se rend pas compte tout ce que l'on touche en 30 minutes. Alors évidemment, si vous êtes dans un garage, sur un chantier, etc., eh bien je dirais que l'employeur devrait avoir la propension à dire à ses employés...
Non mais un petit coup de gel hydroalcoolique de temps en temps,
ça
mange pas de pain,
très, très
quoi.
Bien. Et là, ben, perdez peut-être, allez, 20 minutes par jour pour vous laver les mains, mais ce ne sera pas 20 minutes inutiles, soyons très sérieux.
Question les cinémas. C'est compliqué les cinémas. Hein.
Très très compliqué.
Moi je me vois pas regarder un film avec un masque sur la figure pendant 2 heures.
Hein. Vous voyez, j'ai piqué une hurlante contre Madame Roselyne Bachelot qui critiquait les médecins généralistes parce qu'elle disait que les médecins généralistes étaient fautifs de l'absence de masque. Je pense qu'elle doit toujours s'excuser. Mais là, je dis qu'elle a la bonne place au ministère de la Culture, donc je la remercierai d'aider toutes ces personnes qui, dans la culture, que ce soit au théâtre, au cinéma, et puis toutes ces personnes qui n'ont pas pu travailler durant 6 mois, nous sommes dans une situation très, très, très compliquée, encore pour 1 an, car il faudra encore une bonne petite année pour avoir un vaccin qui, semble-t-il, ne fonctionnera pas pendant 1 an ou 2, mais uniquement pendant quelques mois. Donc, finalement, il faut qu'on soit tous vigilants, il faut qu'on se serre les coudes, et il faut qu'on soit à nous entraider, et il faut que le ministre, s'il vous plaît, remettre un petit peu d'éducation régulièrement.
Pour conclure sur ce point Covid, peut-être le petit message que Didier vient de nous laisser, il nous dit la bonne définition des lieux où il faut porter le masque et là où il est interdit de fumer. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce que en général,
d'autant que Jean-Luc
avoir le même réflexe.
D'autant que Jean-Luc Moreau avait fait une excellente émission, le plasma aérien est un support de particules de virus et sans doute de
virus. La pollution notamment.
Et la pollution. Donc, vous voyez, on est toujours dans la même veine et nos experts font très très bien leur travail.
Christian, attention, mettez votre blouse de spécialiste, de tourista, car là maintenant, c'est votre ordonnance.
Et quoi de neuf, docteur ?
RMC.
Mangez sain, mangez frais, mangez
les pommes !
L'ordonnance de Christian Recchia.
Christian, l'ordonnance donc de ce samedi, comment éviter tous ces désagréments qu'on a tous plus ou moins vécu, hein, c'est vrai, des touristas, des gastro, etc., quand on part en vacances. Déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une tourista ?
Oh bien, c'est un... D'abord, nous avons tous subi cela, oui, c'est vrai. Et nous subissons cela dans des périodes particulières, c'est quand nous sommes loin de nos bases, que nous ayons 8 ans, que nous ayons 20 ans ou plus. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on est en dehors de son lit, de son nid, de son habitation, qu'on fait un voyage, et là encore une fois, qu'on n'a pas appris à faire des choses, car un voyage, il peut se faire de Paris à Brest, il peut se faire de Paris à New Delhi. Le vrai sujet, c'est d'apprendre. Chaque fois que vous partez en voyage, mesdames et messieurs, il faut comprendre que dans la valise, il faut tout ce qui est nécessaire pour pouvoir contenir une diarrhée, des troubles digestifs majeurs. Et on verra cela tout à l'heure, mais dans un premier temps, que faut-il faire pour éviter cela ? Que faut-il faire ?
Vous
donnerez la trousse idéale.
Trousse magique.
Et je dirais que que faut-il faire pour éviter ? Alors, encore une fois, je vais redire des choses banales que, en médecine, nous apprenons dès le premier mois de médecine, qu'en infirmerie, on apprend dès le premier mois de formation d'un infirmier, c'est le lavage des mains. Et ça, si vous voulez, je dis au ministre de l'Éducation nationale, monsieur le ministre, j'ai beaucoup d'estime pour votre fonction et pour vous-même, mais tant que dans les écoles, il y aura si peu de capacité de lavage de mains avec des toilettes si épouvantablement sales, on n'aura pas des enfants qui comprendront ce qu'est la propreté. Et les enfants eux-mêmes disent, on ne va pas dans les toilettes parce que finalement c'est trop sale. Donc problème rénaux, ce n'est pas le sujet du jour pour les enfants. Le problème pour les enfants, c'est qu'au fond, il y a des enfants qui ont souvent des problèmes en février-mars, janvier-février, parce que déjà à l'école, les enfants n'ont pas appris, si vous voulez, la propreté des mains. Et je dirais que quand on rentre à l'école, on doit avoir les ongles propres, les doigts propres, mais quand on quitte l'école à midi, s'il vous plaît, il faudrait que les enfants apprennent à se laver les mains avant d'aller en récréation, à se laver les mains avant de toucher à un goûter, à se laver les mains avant de partir
Christian,
déjeuner.
Là, vous parlez d'école, on est en vacances.
Et là, ensuite, pour les adultes, je transpose ça chez l'adulte, c'est qu'en fait, il faut intégrer la notion que quand vous êtes en dehors de votre vie normale, en vacances, mais le lavage des mains, la douche et la propreté est absolument capital. Premier point. Ça c'est ce qui vous touche, c'est votre corps. Deuxième point, on ne prend pas d'eau du robinet.
On peut être très propre, Christian, et aller dans un resto, manger un truc et choper un truc comme ça.
Effectivement. Donc là, vous êtes propre sur vous, vous avez fait l'essentiel. Deuxième phase, deuxième cercle, c'est quoi ? C'est ce que dit François. C'est pas de glaçons dans votre jus de fruits. Parce que le glaçon peut contenir des bactéries ou des virus
qui ne sont pas tués quand c'est congelé.
Pas tués, voilà, absolument. Pas d'eau du robinet dans un endroit que vous ne connaissez pas. Alors en France, on est magnifiquement soigné parce que l'eau du robinet ne contient pas de virus. L'eau du robinet contient des polluants, mais c'est autre chose. Mais là, en France, on est quand même bien géré. Mais quand on va dans des pays d'outre-tombe, remarquables, avec des gens gentils, adorables, etc., malheureusement, ces pays n'ont pas de l'eau propre. Et là, cette eau est...
Enfin, pas tous, bien évidemment.
Voilà. Hein, ensuite, pays. Il y a... dans ces pays-là, ne prenez pas forcément des crudités, ne prenez pas forcément des produits, quand vous n'êtes pas sûr de vous, des produits, si vous voulez, qui ne sont pas cuits. Donc au fond, les premiers jours, quand vous arrivez en vacances, il faut avoir, premier cercle, vous vous lavez parfaitement en permanence. Deuxième cercle, vous ne mangez pas des produits frais, vous lavez les fruits que vous prenez, vous ne prenez pas de glaçons et vous ne buvez pas d'eau du robinet.
Non, on lave les fruits, si on les lave à l'eau...
Oui, mais laver des fruits, déjà, c'est important. Et alors, après, il y a des produits que l'on peut mettre, si vous voulez, dans l'eau locale. C'est des produits que vous achetez en pharmacie. Le pharmacien va vous donner ça. Mmh. Ce sont des pastilles.
Ça désinfecte
qui
l'eau,
qui permettent
en fait
de désinfecter l'eau. Ouais. Et là, concrètement...
Mais imaginez, vous êtes à l'hôtel, vous n'allez pas désinfecter vos fruits.
Il faut
quand même,
très peu de choses, parce que ces petites choses-là que vous faites vous évitent un drame, parce qu'avoir une tourista au début de vacances...
Vaut mieux plutôt manger cuit.
Il vaut mieux manger cuit que cru. Ça, c'est clair.
Donc, un plat chaud est plutôt recommandé.
Toujours. Personnellement, quand j'arrive dans un endroit que je ne connais pas, je mange uniquement des plats chauds.
À partir du moment où je mange un plat chaud, ça évite les touristes.
Vous avez un million de fois moins de risques d'avoir un problème. Donc, vous voyez, ce sont peu de choses, parce qu'avoir en début de vacances, au bout d'une demi-journée de vacances, avoir un problème de tourista, ça vous gâche la vie familiale et ça vous gâche les vacances.
Ça arrive. Est-ce que déjà, on peut prévenir en prenant, je ne sais pas moi, quelque chose?
Il n'y a pas de médicaments qui préviennent. D'accord. Premier cercle, vous vous lavez. Deuxième cercle, vous faites attention à ce que vous mangez.
On l'a. Qu'est-ce qu'on fait?
Troisième cercle, là, vous lavez. Bon.
Ben voilà.
Alors, on serre les dents.
On tire la chasse.
On reste chez soi.
Pardon.
Et là, concrètement, il y a des médicaments qu'il faut toujours avoir sur soi. Personnellement, j'en ai là en ce moment. Je peux en donner à François immédiatement.
Tout va bien.
Tout va bien pour l'instant. C'est... Sur
ne
soi,
portez pas l'âge commun.
Sur soi, si vous voulez, François,
oui.
Si je puis me permettre, vous en avez parlé tout à l'heure,
tout
donc
à
j'ai
fait.
Tout prévu.
Oui.
Eh bien, c'est du turfan. Du turfan, c'est un produit qui permet de stopper immédiatement les évacuations.
D'accord.
Et je ne dirais que cela ce matin.
Oui, très
ensuite,
bien.
Ensuite, du Smecta.
Et tout ça, on peut, sans ordonnance.
Sans problème. Du bien Smecta. Sûr. Alors,
parce
le
que
Smecta,
là, c'est de l'automédication, Christian.
Mais c'est la médication. C'est le savon de Marseille qu'il faut avoir sur soi en permanence.
D'accord.
Et un enfant de sixième qui sait un peu vivre dans la vie avec ses copains, il doit savoir, parce qu'il a été éduqué, qu'il faut du savon pour se laver les mains, qu'il faut du savon pour se doucher, et que de temps en temps, avoir du turfan quand on fait des grandes navigations. Moi, quand j'étais athlète, parce que je faisais 12 heures d'athlétisme par semaine, quand je partais faire de la compétition, ça, ce sont des choses qu'on avait sur soi.
Turfan, Smecta.
Et ça vous arrête le tout en moins de 2 heures. C'est énorme, 2 heures.
Génial,
enfin,
c'est génial.
C'est déjà très très bien. Vous
c'est
êtes en un.
Et après, est-ce qu'il faut avoir un régime alimentaire particulier
pendant 48 heures? Si la fièvre arrive, dans ces cas-là, c'est le médecin qui malheureusement doit venir, et là, il vous donnera des antiseptiques. Ne prenez pas d'antiseptiques parce qu'ils sont toxiques pour la fonction rénale, comme l'Intetrix, concrètement. Mais méfiez-vous. Mais Turfan et Smecta doivent suffire. Quatrième cercle, vous venez de l'avoir. Vous avez eu le Turfan et Smecta parce que vous nous avez écouté. Eh bien, quatrième cercle, il faut savoir manger des aliments qui vont vous réparer. Et c'est l'élément le plus important.
Alors, on y va vite. Qu'est-ce qu'on fait?
Ce sont des carottes. C'est du riz.
Oui.
C'est de la banane. C'est surtout pas de fromage frais. C'est des fromages à pâte dure. Et donc, finalement, ceci pendant 24-48 heures. Ça veut dire que pendant 24-48 heures, ne prenez pas de gras, ne prenez pas de sauce, ne prenez pas de viande. Donc, au fond, il faut rester portion congrue.
Croisons les doigts pour pas que ça arrive.
D'où l'intérêt de faire attention avant pour éviter le drame. Parce que quand on arrive en vacances, on va faire ça, c'est pas bien.
La météo, un point sur la circulation et on revient et on va s'intéresser, aux cures thermales et les bienfaits des cures thermales avec Christian et notre invité. À tout de suite.
RMC.
Oui, il y a un embouteillage au Bambouillonnant, la monstrueuse, là.
Je suis épuisée. Moi, j'ai fait sophrologie, boule marine, hydromassage, pédibule, j'en peux plus, quoi.
Votre forme.
Ça vous fait du bien, hein?
Ah ouais, ça me fait du bien.
Tous ces jets, tous ces soins, ça réveille les sens, un peu, là. Ça tonifie le corps, hein.
C'est brûlant!
Allez, c'est bon. sais pas quoi prendre, Chouchou. Là, je suis largué, moi. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Bah, fais-toi faire une irrigation colonique.
C'est quoi, ça, une irrigation colonique?
François Sorel.
Christian Vecchia.
Ah, c'est pour évoquer le précédent sujet de l'irrigation colonique, non, Christian, justement, après une tourista?
Surtout pas.
Surtout.
Oh
pas.
Mon Dieu, l'irrigation colonique d'une chanteuse Rika Zaraï a fait plus de dégâts que de bienfaits.
On parlait du turfan tout à l'heure. Vous vouliez ajouter une précision.
Il faut la prescription médicale. Et puis, d'autre part, sachez une chose, c'est que...
Le turfan qu'il faut prendre, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, on évoquait la tourista et les gastro.
Uniquement quand la tourista est présente, ce n'est pas en amont qu'il faut prendre du turfan, c'est malheureusement quand la tourista est là. Et en amont, voilà. C'est véritablement l'hygiène corporelle.
C'est
pas de glaçons, pas d'eau, pas de crudité, des produits cuits, et puis des produits que vous maîtrisez. Et puis ensuite, le troisième volet, c'est quand vous êtes malade, avant le médecin, turfan, smecta, et puis évidemment, le repos. Et quatrième cercle important, c'est se nourrir de carottes, de riz, de choses légères.
Et attendre 48 heures, petit à petit.
Et puis, trois jours après, vous avez oublié et les vacances reprennent.
Bon, Christian, les vacances reprennent. Peut-être qu'on va en profiter pour se faire une petite cure dans un endroit fait pour ça. Les cures thermales, c'est génial. Et on en parle parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de santé et de bien-être avec la cure thermale. Mais est-ce que ça apporte vraiment un plus?
Eh bien, écoutez, en tant que médecin interniste qui ait travaillé avec autant de greffés, avec Cabrol, je dirais que vraiment, je peux dire avec force et puissance, c'est que les cures sont extrêmement efficaces. Les cures ne sont pas prises au sérieux par les médecins. Je le regrette. Je n'ai aucun conflit d'intérêt aujourd'hui, sachez-le. Mais comprenez bien que toute personne qui a bénéficié d'une cure pour une pathologie rhumatismale, pour une pathologie digestive, pour une pathologie ORL, pour toute pathologie, jusqu'à la gynéco, ont toujours bénéficié d'une grande efficacité. Cela dit, il y a des protocoles, c'est une spécialité médicale, il y a des gens sérieux,
Christian,
sur le métier, et là, nous pourrions en parler, mais des mois,
non,
tellement
mais
c'est important.
Les cures thermales, ça sert à quoi?
Cure thermale, d'abord, ça permet...
Et pour quelle pathologie?
Pour un grand nombre de pathologies. Et il y a la capacité pour une cure thermale de prendre en charge quelqu'un pour lui réapprendre une hygiène de vie. La base est là. Ça dure 18 jours et il y a 4 à 5 soins par jour obligatoires. C'est sûr que c'est un chemin de vie thérapeutique qui peut paraître comme ça prenant. Et je vous en parle avec beaucoup de puissance, François, parce que dans le quartier où je suis né, dans mon quartier d'ouvriers à Bertrand-Gimeldange, près de Metz, eh bien, il y a aujourd'hui des mamies que j'adore, qui m'ont vu grandir, qui ont bénéficié de cures thermales pendant longtemps, qui avaient des pathologies sévères et qui ont été sauvées durablement par ces cures, parce que finalement, ce sont des personnes qui ont évité des traitements lourds aux selles d'or, qui sont de la chimiothérapie pour des rhumatismes sévères. Et évidemment, il y a une grande efficacité des cures. Et là-dessus, il y a des publications. J'ai une expérience personnelle en tant que médecin et j'ai vu des patients
Personnellement, vous avez fait des cures thermales ou pas?
Personnellement, j'ai organisé des cures thermales.
D'accord.
Personnellement, je n'ai pas bénéficié de cures thermales, mais j'ai mon grand cousin Germain, grand pompier de France, grand président des pompiers de France, qui a bénéficié de cures à Dax depuis une dizaine d'années. Eh bien, je peux vous dire que je vois l'efficacité thérapeutique après la cure, mais il a gagné 30 à 40% de soins.
À qui conseillez-vous les cures, Christian?
À tout le monde, on est tous stressés, on n'est plus en communication, on a des problèmes de peau, on a des problèmes psychologiques, on n'arrive plus à se reposer. Je dirais que la cure est une forme de vie. Alors je ne dis pas qu'il faut une cure de 18 jours forcément, mais c'est, vous savez, François, quand on s'est connu, eh bien je dis toujours, 4 jours de repos tous les 6 semaines permettent de restructurer un individu, car le corps se répare en permanence. Eh bien déjà, ça c'est une cure en soi. Boire un verre d'eau toutes les heures entre les repas est un élément qui permet de vous réhydrater. Ça, pour le foie, pour les reins, pour la peau, pour le cerveau, pour l'immunité, c'est absolument génial. Et donc là aujourd'hui, il y a des grands spécialistes, il y a des spécialistes, et là aujourd'hui, nous allons parler avec une personne qui est de cette profession, et qui va nous permettre d'ouvrir ce sujet qui pourrait durer toute l'année avec nous, François.
Alors, Carole Lecouvreur est avec nous. Bonjour, Carole.
Bonjour, Gilles. Bonjour à vos invités.
Bonjour.
Et à vos auditeurs.
Alors c'est François Gilles, c'était notre producteur, mais c'est pas grave, Carole, il y a pas de souci. Vous êtes directrice régionale d'exploitation des stations thermales de Bourbonne-les-Bains, c'est dans la Haute-Marne, et vous êtes aussi basée à Enghien-les-Bains. Première question liée à l'actualité Covid, est-ce que aujourd'hui les stations thermales sont ouvertes?
La plupart des stations thermales ont ouvert effectivement sur la première semaine du mois de juillet. Et bien évidemment, comme beaucoup de professions, nous avons adapté nos protocoles pour mettre en place des gestes barrières.
Alors, quels sont ces protocoles?
Alors, quand les curistes arriveront dans l'établissement thermal, aujourd'hui, on leur demandera obligatoirement, bien sûr, d'avoir un masque. Alors, nous, c'était valable dès nos ouvertures. Hein, on n'a pas attendu les modifications. Passage au gel hydroalcoolique des mains. Hein, donc, on en est toujours sur l'hygiène corporelle, l'hygiène des mains. Et puis, donc après, on s'assure au sein des établissements qu'on arrive à respecter la distance d'un mètre. Et si on n'y arrive pas, les curistes gardent le masque au sein de notre établissement.
Et là, je vous demande, madame, en tant que médecin, de demander à vos curistes de garder le masque obligatoirement dans votre
Christian,
établissement.
Christian, est-ce que l'environnement d'une cure thermale est favorable au virus ou aux bactéries? Après, je pose la question sur Carole.
Plus, mais... Pas plus qu'un grand magasin, et compte tenu du fait
c'est humide, chaud. Oui.
Il y a des professionnels de santé responsables avec une hygiène absolument parfaite, obligatoire dans ces établissements. Je dirais qu'il n'y a pas plus de risque qu'ailleurs, avec la capacité aujourd'hui de mieux responsabiliser les gens qui sont là. Mais il faut vraiment briefer le patient qui est là, et tous les matins briefer le personnel. C'est un vrai travail de fond qu'il va falloir restructurer. Et madame, en tant que médecin, je dirais que l'endroit que vous gérez gère quel type de pathologie?
Alors nous gérons des cures en rhumatologie et en voie respiratoire.
Très bien. Alors là, il faut vous dire, François, que les effets sont tout à fait
remarquables. Christian, on rappelle ce qu'est la rhumatologie pour tous ceux qui ne savent pas.
C'est toutes les pathologies inflammatoires qui touchent l'articulation.
Les genoux,
les genoux, les épaules, toutes les articulations jusqu'aux doigts, parce que quand on a une polyarthrite rhumatoïde, chaque articulation jusqu'au bout de chaque doigt peut être atteinte, en commençant par les cervicales. Et bien concrètement, ça peut être des rhumatismes sévères, des rhumatismes moins sévères. Et concrètement, aujourd'hui, combien de patients recevez-vous chaque année, madame?
Sur le site de Bourbonne-les-Bains, on reçoit à peu près 8000 patients.
D'accord, très bien. Alors, vous voyez, François, j'étais avec Lucie Ferrand, qui est une grande dame qui s'occupe également à Évian des mêmes patients en rhumato, et nous avons partagé et échangé. Alors, madame, expliquez-nous quel type de pathologie en rhumatologie vous avez particulièrement. Est-ce que vous avez une spécialité en rhumatologie?
Alors, la station de Bourbonne est connue pour deux pathologies plus spécifiquement. Donc, le premier, c'est l'arthrose.
Très bien.
Et la deuxième, c'est l'ostéoporose.
Alors, voilà. D'accord.
On a une eau qui est très riche en calcium.
Et alors effectivement,
et qui permet, du coup.
François, ça montre quoi? C'est que l'eau qui est riche en calcium est une eau qui est capable de faire passer le calcium dans le sang comme le lait. C'est-à-dire que le calcium de l'eau est nutritionnellement digestif.
Mais il faut le boire.
Mais il faut le boire.
D'accord.
Mais donc le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'une eau calcique est aussi efficace que le fromage pour la réparation, des os. Alors, avec en plus une activité physique que vous proposez aux gens, je suppose.
Claudie, on va voir Claudie dans un instant qui aura une question à vous poser. Mais Carole, c'est quoi le planning d'une journée type d'un curiste, en fait? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, les soins se font en général le matin. Donc les créneaux de soins se déroulent sur une matinée entre 7h et midi approximativement. La durée des soins pour les curistes dure à peu près 1h30. Ça va dépendre bien évidemment de la prescription médicale qu'ils auront. Et l'après-midi, on leur conseille de se reposer puisque c'est important qu'ils adaptent aussi un rythme qui leur permet de se reposer l'après-midi. Parce que même si ça paraît pas comme ça, une cure, c'est fatigant.
C'est une rééducation.
Et alors, on peut avoir combien de soins dans la matinée, par exemple?
On peut avoir en général, c'est 4 soins.
D'accord.
Voilà, quand on est sur une orientation simple en rhumatologie, nous, on a des patients qui font rhumatologie et voie respiratoire. Et là, ça peut monter jusqu'à 7 soins par jour. Donc là, il faut plutôt compter effectivement 2h30 de présence au sein de l'établissement.
Christian, par exemple, je prends une personne qui se fait opérer du genou.
Oui.
Donc il y a il y aura l'opération, après il y a une rééducation.
Oui. Hein.
Est-ce qu'après une cure thermale peut accélérer en fait le rétablissement?
Loin de l'intervention dans ces cas-là.
Loin de l'intervention.
Quand une intervention est arrivée chez quelqu'un, il faut attendre une bonne réparation tissulaire, 3-4 mois, et là...
Une bonne cicatrisation, etc.
Une bonne cicatrisation, il faut que le médecin rééducateur précise...
Mais une année après, par exemple...
Parfait. Et je dirais même que il y a une efficacité remarquable en rhumato des cures parce que les personnes arrivent à se relâcher. Je vais vous donner quelques chiffres, François. C'est que quand, par exemple, sur Evian, l'amélioration des patients, mais ça doit être aussi chez vous, madame, amélioration, diminution de la douleur, 30% de douleur en moins. Les patients disent, j'ai une efficacité sur la douleur pour 30% d'entre eux. Une efficacité, diminution de 25% de médicaments en moins. Donc, c'est important.
Mais qui dure dans le temps ou
qui
pas?
Qui dure dans le temps. Pas la première fois, mais d'accord, au bout de 3-4 passages en cure, cela dure. Et donc, ça, il y a une efficacité.
On revient dans un instant avec notre invité, hein, Carole Recouvreur. Et puis, Claudie qui sera là, qui est une adepte des cures. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. 8h40. 3 tout de suite, c'est RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme. RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.
François Sorel.
Christian Recchia.
Il est 8h46, nous sommes de retour, le week-end des experts, et c'est la forme de la santé avec Christian Recchia. On évoque les cures thermales, les bienfaits des cures thermales avec Carole Recouvreur, qui est directrice générale d'exploitation des stations thermales de Bourbonne-les-Bains, en Haute-Marne. Et nous accueillons Claudie, qui a une question, Christian. Bonjour Claudie.
Bonjour. Moi, ce n'est pas vraiment une question.
Ah oui, c'était plutôt un témoignage, oui.
Voilà, c'était plutôt un témoignage, et je rejoins tout à fait ce que le docteur disait, parce que moi, ça fait 6 ans que je fais des cures pour la polyarthrite rhumatoïde, et ça fait... Suite aux cures, ça fait 3 ans que je n'ai pas pris un tramadol, parce que quand j'ai des fortes crises, il n'y a que le tramadol qui me faisait passer les douleurs.
Christian, polyarthrite rhumatoïde, de quoi s'agissait-il ?
C'est terrible. Plusieurs membres de ma famille sont atteints de cette pathologie, jusqu'au traitement au sel d'or, qui est un traitement en chimiothérapie. Ce sont des douleurs, des déformations de toutes les articulations. Les personnes se retrouvent avec des mains totalement déformées.
Donc, et ça fait très mal.
Ça fait très mal.
Ça vous confirmez, Claudie, c'est ça, hein ?
C'est horrible.
Je peux témoigner que les patients qui ont bénéficié dans cette pathologie de cure, et de toute cure, c'est-à-dire que vous soyez chez Evian, que vous soyez à Bourboule ou ailleurs, il y a une diminution de 30% de la masse médicamenteuse. Et quand un patient a diminué ses médicaments dans une polyarthrite rhumatoïde, la personne revit parce que cette thérapeutique est très très lourde, très très lourde.
Attendez.
Et là, donc, ça veut dire que la cure a permis d'améliorer la qualité de vie du patient, de diminuer les risques de dépenses de sécurité sociale et les risques de complications post-thérapeutiques.
Claudie, racontez-nous justement, après la cure, ça a changé votre vie, vous aviez moins mal, c'est ça ?
Ah oui, parce que quand j'ai des crises, par exemple dans les pieds, je peux être 3-4 jours sans pouvoir poser les pieds par terre, pouvoir
c'est
marcher.
Terrible, c'est terrible.
Ah oui, mais c'est horrible.
C'est l'équivalent d'une brûlure, François.
Quel type de soins faisiez-vous, Claudie ?
Moi, je suis soignée par Plaquenil et de temps en temps, j'avais des séances de kiné. Mais c'est la cure qui me sauve, moi. Moi, la cure me permet de revivre normalement. C'est merveilleux.
Alors, quel type de soins, justement, vous faites en cure pour vous soulager ?
Alors, j'ai la piscine avec les jets que l'on dirige sur les zones les plus douloureuses.
Douloureuses, d'accord, oui.
Après, j'ai de la kiné en piscine également. Mm-hmm. Après, je mets mes mains et mes pieds dans des appareils où je reçois des jets d'eau qui permettent d'améliorer les articulations. Ensuite, j'ai de la piscine en kaolin, donc là, c'est merveilleux.
Ça, c'est génial. C'est absolument génial.
Dieu, c'est du bonheur.
François, je vous propose cela.
Ah, mais j'aimerais bien. Carole, vous confirmez que vous, enfin, ce que dit Claudie, c'est-à-dire que j'imagine que vous avez plein de patients qui arrivent, qui sont dans ce cas-là.
Oui, on reçoit aussi, nous, des patients qui ont effectivement des polyarthrites inflammatoires et effectivement, les soins, notamment les bains locaux sont des soins, donc les bains dans lesquels on met les mains, les pieds sont des soins qui sont effectivement très efficaces sur ce type de pathologie. Oui.
Pardon. Oui, allez-y.
Les gens, Carole, tout de suite reçoivent. Alors, même si c'est pas durable, souvent les gens, au bout des 18 jours de cure, nous disent qu'ils ont déjà moins mal, même si à ce moment-là, on n'a effectivement pas d'impact sur le traitement médicamenteux. Classique.
Deux choses très importantes, deux points très importants. Un curiste est toujours vu par un médecin longuement avant le début de la cure. cela permet d'avoir une vision globale. Le médecin fait un travail exceptionnel. Et deuxièmement, c'est une économie remarquable pour les dépenses de sécu. Parce qu'un patient qui souffre, un patient qui a des complications post-thérapeutiques, et je peux vous dire que après un problème respiratoire, après des rhinites successives, on peut parler des cures à faire dans le Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, il y a des cures remarquables pour les aspects respiratoires. On ne va pas parler que des viands ou de madame. Eh bien, l'idée, c'est que là, j'ai vu des patients être malades durant des années, et en l'espace de 2 ans de cure remarquablement bien faite dans le Sud-Ouest, eh bien, elles n'ont plus de pathologie respiratoire.
C'est pas des cures qui durent 2 ans.
C'est des cures qui ont été faites.
Deux séjours.
18 jours de rang. 2 ans de suite. Okay. Et ce qui veut dire que 2 sessions de cure, en 2 ans, il y a déjà une division par 2 de la des problèmes, je dirais, respiratoires.
Vous parliez de coûts. Carole, ça coûte combien une cure?
Alors, ça va dépendre de l'orientation thérapeutique. Les premières cures, donc les cures, on va dire, les moins onéreuses sont les cures voies respiratoires, qui sont à peu près à 500 euros.
Oui. Vous avez un coup de téléphone, j'ai l'impression.
C'est pas chez moi.
Non, c'est moi. Excusez-moi, c'est mon fixe.
Ah, pardon, Claudie, pas de souci.
Voilà. Et après, donc, si on est sur une cure en double orientation, donc avec, par exemple, hématologie voie respiratoire, on va être à peu près dans les 750 euros.
D'accord. Et alors là, Christian, ça peut être remboursé, ce type de soins?
Madame, quel est le niveau de remboursement aujourd'hui de ces cures?
Alors, au niveau
quand on a des mutuelles, par exemple.
Des questions plus difficiles, je vais commencer par l'assurance maladie. L'assurance maladie prend en charge 65% du séjour en cure.
D'accord.
Et rembourse le forfait de surveillance thermale, donc qui est l'accompagnement médical fait par le médecin thermal.
Très bien.
Les mutuelles, ça va être très variable. Vous avez des mutuelles qui vont vous donner des forfaits. Donc, ils peuvent couvrir plus que vos dépenses de cure. Donc, ils peuvent couvrir votre logement. D'accord. En cure ou éventuellement les déplacements. Et malheureusement, il y a des mutuelles aujourd'hui qui ne vont pas prendre en charge du tout le complément.
D'accord.
Très bien.
Donc là, c'est à ce... Comment peut-on se renseigner? C'est-à-dire que c'est le médecin qui va initier la cure. On est d'accord, c'est sur prescription médicale. Et puis ensuite... Voilà, et après, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir quel est le montant que vous allez avoir comme remboursement, c'est ça?
Bon, voilà. Sachant que la plupart des mutuelles remboursent au moins à 100% la partie soins et la partie forfait de surveillance médicale.
Et qu'est-ce qui reste à la charge donc du patient, là?
Une partie de l'hébergement et le transport pour venir en cure. Et bien évidemment, ses dépenses personnelles sur son lieu de cure.
Bien sûr.
D'accord. Alors, j'aurais voulu exprimer un point très très important. Quand vous avez commencé à faire une cure, mesdames et messieurs, n'imaginez pas qu'en une session de cure, les choses vont se résoudre. Il faut plusieurs sessions de cure, au moins 3 ou 4, pour avoir un bénéfice durable. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous n'êtes pas rhumatisant, si vous n'avez pas de problème respiratoire, de toute façon, aujourd'hui, une cure sera pour des personnes fragiles de plus de 60 ans qui n'expriment pas forcément ces pathologies un bienfait remarquable. Parce que sur
tout le monde peut faire des cures.
Tout le monde peut faire une cure.
Même des
sur le plan vasculaire.
Même si on est jeune, ça a du sens?
Ça a toujours du sens parce que la cure elle-même, la station thermale elle-même, adapte en fonction du diagnostic médical les thérapeutiques avec les kinés, avec les thérapeutes, et vous avez des soins qui sont adaptés à votre profil. Et aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de rester 21 jours en cure ou 18 jours en cure. Il est parfois utile de se faire une session en hôtellerie et de se dire 3 jours de soins, ben vous ressortez 3 jours de soins, ça vaut 8 jours de vacances.
Christian, la question de Gauthier, petite question sur les cures thermales, est-ce que cela fonctionne pour les troubles du sommeil par exemple?
Oh mais bien sûr, bien évidemment, mais dans ces cas-là, encore une fois, le médecin interniste qui vous voit pendant une heure et demie a capté vos difficultés, et là, il y a des thérapeutes qui vont gérer le sommeil et autre chose, parce que les troubles du sommeil, c'est jamais monofactoriel, c'est toujours plurifactoriel, donc évidemment, et c'est généralement très très bien, parce que pendant la cure, on a le temps de s'initier à la thérapeutique, et du coup, on rentre chez soi, on a été rompu à la thérapeutique, ça permet de susciter l'éveil, parce que souvent les personnes, quand on leur donne la thérapeutique et qu'ils rentrent chez eux, eh bien, il est parfois difficile de tenir la thérapeutique pour le sommeil.
Christian, merci pour toutes ces précisions,
merci infiniment
pour tous ces conseils.
L'excellent Raphaël Grabli a est présent. Il est en train de nettoyer ses bases.
Ses bases.
Donc,
salut,
son ordinateur, son micro, son bouton.
Nettoyage, geste barrière.
Voilà. Exactement. Mais il a bien raison.
Il est douché tout propre. Mm-hmm. Voilà.
Oui, ça.
Merci, Christian. On se retrouve la semaine prochaine. Et dans un instant, Raphaël sera là pour la vie numérique. Et on va parler de sécurité et notamment de sécurité avant de partir en vacances.
Oui, comment protéger sa maison, avec quels outils. Il y a des systèmes, il y a beaucoup de systèmes qui existent. Aujourd'hui, les systèmes, forcément, sont un peu plus intelligents qu'avant. Ils fonctionnent avec des applications. On va avoir deux acteurs majeurs. Voilà.
Caméra et alarme, c'est vraiment le duo gagnant.
Ça peut faire peur aussi à l'installation. Ouais. On va en parler pour expliquer comment on peut.
Énormément simplifié, bien sûr.
C'est démocratisé, ouais.
Raphaël sera là donc pour la vie numérique entre 9 et 10 sur RMC. Vos questions, sur la sécurité de votre maison ou sur tous les sujets liés à la vie numérique, le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.